Le réseau Afrique Santé de la Voix de l'Amérique propose
Votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir est exclusivement axé sur la lutte contre le sida en RDC.
Réalisation Georges Léonard Sagnot, votre santé, votre avenir commence maintenant. Nous avons constaté que depuis sa découverte en 1976 en République démocratique du Congo, RDC, ex-Zaïre, jamais le virus Ebola ne s'était répandu aussi largement et n'avait fait autant de victimes. Il est encore réapparu en RDC et sous une souche différente en Afrique de l'Ouest. Certes, le bilan du virus Ebola est effrayant, mais certains observateurs disent qu'il faut relativiser quelque peu son ampleur, car pour eux, le virus Ebola a entraîné près de 3000 morts depuis 1976, contre 36 millions de morts depuis 1983 pour le sida, la maladie infectieuse la plus meurtrière du monde. Comment cette affirmation se présente-t-elle sur le terrain en RDC, pays frappé par ces deux fléaux? Nous allons en discuter avec nos invités.
Je suis docteur René Boyo, chef de section partenariat au PMML, et je suis heureux de participer à cette émission.
Je m'appelle William B. Jean-Jacques, professeur de microbiologie à la faculté de médecine, université de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis heureux de participer à votre émission Santé et votre avenir.
Merci messieurs, merci chers invités, restez avec nous. Nous avons également des auditeurs et pour le moment nous avons depuis Goma, Amina Massoudi. Amina, vous êtes là?
Oui, je suis là, très ravie de participer à cette émission.
Oui, Amina, merci. Et je commence tout de suite avec le professeur Mouyembe. Est-ce qu'au Congo, on partage cette idée des observateurs qui rendent le sida plus meurtrier qu'Ebola? Professeur.
Oui, bon, mais écoutez, ce sont deux infections totalement différentes. Hein. Le sida donne... c'est une infection chronique qui dure, alors qui tue petit à petit, tandis que Ebola, c'est vraiment une infection aiguë et qui tue brutalement et laisse alors, n'est-ce pas, des séquelles très importantes. Et pour moi, donc, c'est deux infections vraiment différentes.
Est-ce qu'il y a moyen de les comparer?
Ben, je ne sais pas pourquoi vous voulez le comparer. Mais ouais. Pour moi, Ebola, donc Ebola, mm-hmm. c'est une maladie qui apparaît, mm-hmm. qui apparaît, donc qui fait des dégâts mm-hmm. et qui disparaît. Mm-hmm. Tandis que le sida, c'est une maladie mm-hmm. qui est apparue, qui traîne, qui tue lentement et peut-être ça va durer encore longtemps.
Voilà, professeur, nous avons pensé à la comparaison parce que nous nous mettons du côté des populations qui n'ont pas cette vision technique que vous avez et que nous pouvons avoir en tant que journalistes. Les gens se disent, voilà, deux épidémies qui tombent sur nous. Je présente cette émission en compagnie de Chouchou Kaoa, notre correspondante en RDC, qui est actuellement à Washington avec nous. Aussi, nous sommes avec Sarah Diaby, Sarah, qui est venue de Paris. Alors d'abord, Chouchou, est-ce que vous avez une question pour le docteur Mboyo?
Docteur Mboyo, votre réaction en tant que docteur, vous êtes dans la lutte, ça fait autant d'années. Quelle est votre réaction par rapport à la question que Khalil vient de poser au professeur?
Non, mais je crois que le professeur a bien fait de préciser qu'il s'agit là de deux maladies tout à fait différentes qui sont à prendre en compte comme telles. Mais je voudrais juste apporter un complément, c'est que ce qu'on peut aussi noter par rapport à ces deux maladies redoutables, hein, dont l'une était aiguë, donc Ebola, et l'autre chronique, comme disait le professeur, donc le VIH, il faut dire que, mais aussi en termes de riposte, en termes de réponse par rapport à ces deux épidémies. Il faut dire que les deux n'ont pas de vaccin jusque-là, mais pas de vaccin. Mais à part le fait de ne pas avoir de vaccin pour toutes les deux maladies, il faut dire que pour Ebola, il n'y a même pas un traitement qui permet aujourd'hui d'essayer de contrôler l'épidémie comme on en a par rapport au VIH, donc je veux dire le médicament antirétroviraux qui ne guérissent pas du sida jusque-là, mais qui donne énormément d'espoir en termes de réduction de la charge virale, de l'apparition de maladies opportunistes et donc de l'amélioration de la qualité de vie. Mais vraiment, ce n'est pas dans le but cette comparaison, comme se demandait le professeur. Hein, donc, ce sont deux maladies provoquées par de virus, mais qui ont des comportements tout à fait différents.
Professeur Muyembe, vous êtes connu pour votre spécialisation dans la lutte contre Ebola et vous faites partie des fiertés africaines sur lesquelles nous comptons, n'est-ce pas? Nous savons aussi que la RDC ne baisse pas les bras pour lutter contre le virus d'Ebola, qui à ce jour a fait quand même plusieurs victimes. Avez-vous l'impression, docteur, que les choses vont comme l'a voulu le gouvernement? Est-ce que ça se passe très bien? Est-ce que la maladie peut être contenue dans les délais assez brefs?
Oui, ben voilà. Disons le problème que nous avons actuellement, c'est que Ebola survenait souvent dans les pays de l'Afrique centrale. On pensait que Ebola était lié donc au climat équatorial, à la forêt équatoriale. Ce qui veut dire que les autres pays, par exemple de l'Afrique de l'Ouest, n'étaient pas préparés. Donc maintenant, ils sont vraiment pris de court. Ce que nous voyons là-bas, c'est la panique, c'est la psychose, etc. Tandis que nous, de l'Afrique centrale, nous sommes mieux préparés. Par exemple, la RDC, nous avons déjà connu cette épidémie. Et donc, quand nous avons une épidémie de fièvre hémorragique Ebola, nous sommes en mesure, n'est-ce pas, de contrôler cette épidémie et d'éviter que la maladie ne puisse s'étendre dans les pays voisins. Et donc, nous parvenons à contrôler cette maladie avec des mesures de santé publique, n'est-ce pas, les plus simples possibles. Mais ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est un peu la surprise qui a créé donc la panique et la psychose. Mmh. Et ajouté à cela donc la méconnaissance de la maladie, ce qui fait que les chaînes de transmission traînent à être rompues. Mmh. C'est un peu ce que nous voyons là. Alors, avec toutes les conséquences psychosociales, toutes les conséquences économiques que nous voyons, n'est-ce pas, dans ce pays.
Professeur, ça me fait penser à plusieurs questions à la fois hein, pendant que nous discutons comme ça.
Oui.
D'abord, on disait que Ebola était lié à la consommation de viande de brousse infectée. Mais bien avant qu'Ebola n'apparaisse, les personnes en Afrique centrale et en Afrique en général consommaient de la viande de brousse et il n'y avait pas Ebola, premièrement. Deuxièmement, le phénomène de la concomitance. Ebola se déclare au Zaïre en 1976 et se déclare en même temps en Zara, au Soudan, avec une souche différente. Cette fois, ça a commencé par l'Afrique de l'Ouest et la souche Zaïre est revenue quelques temps après. Cette concomitance-là, comment vous l'expliquez? Pourquoi Ebola frappe toujours deux fois? C'est dû à quoi?
Oui. Voilà. En fait, dans la transmission de la maladie, hein, il y a d'abord la transmission primaire. La transmission primaire, mm-hmm. c'est un homme qui entre en contact avec un animal trouvé mort dans la forêt ou dans la brousse. Et cet animal est victime du virus Ebola. Souvent, ce sont les chasseurs. Et ces chasseurs-là, donc, s'infectent. Et puis, il amène la maladie chez lui à la maison. Il va infecter, donc, ses membres de famille. Alors, les membres de famille vont se présenter, n'est-ce pas, à l'hôpital ou dans un dispensaire où les niveaux d'hygiène et d'assainissement sont relativement bas. Donc, les personnels infirmier, le personnel médical sera donc infecté, contaminé. Donc, il y aura une amplification de la maladie, une amplification de l'infection au niveau de l'hôpital. C'est comme ça que, en fait, on est alerté parce que le personnel infirmier, les médecins commencent à mourir dans un hôpital. Et ça attire l'attention des autorités de santé publique. Après, qu'est-ce qui se passe? Le personnel infirmier, le personnel médical infecté va amener l'infection dans sa famille. Donc l'infection vient maintenant dans la communauté. Maintenant, c'est la transmission secondaire où la maladie se transmet de personne à personne en touchant le sang, en touchant la salive, en touchant les urines, n'est-ce pas, des malades. Alors, un autre phénomène qui va amplifier l'infection, ce sont les cérémonies funéraires. Et vous savez, nous, les Africains, nous sommes très émotionnels. Donc, on touche les cadavres, on caresse les cadavres et on lave les cadavres. C'est pendant cette opération-là que l'infection se répand donc dans la communauté. Ça, c'est la deuxième amplification qui se fait. Donc, ce qui fait que cette maladie a des aspects socio-culturels énormes. Et si vous ne maîtrisez pas cet aspect socio-culturel, vous ne rompez pas la chaîne de transmission, donc la maladie va se répandre, n'est-ce pas, dans la communauté. La viande de brousse, c'est la source. Mais nos ancêtres ont toujours mangé la viande de brousse. Bien sûr, il y avait quelques infections, peut-être qu'on ne connaissait pas, méconnues, qui ne sont pas notifiées. Mais la maladie, une fois que la maladie vient à l'hôpital, dans nos hôpitaux africains, il y a donc une amplification, n'est-ce pas, de cette infection-là. Nous devons aussi comprendre qu'une fois que l'épidémie a pris racine, a évolué, la viande de brousse ne joue plus aucun rôle. Donc, ce n'est pas bon d'interdire aux gens de ne pas manger la viande de brousse, surtout la viande boucanée, etc., etc. Vous allez créer un autre problème. Donc, il ne faut pas interdire de consommer la viande de brousse. Et puis, la concomitance des épidémies.
Oui.
Bien sûr, la première épidémie, ça avait commencé en Zara, au sud du Soudan, en juin. Et puis, concomitamment, en RDC, au mois de septembre. Bon, au début, nous croyons que c'était le même virus qui est venu en RDC, mais l'étude virologique a montré que c'était deux souches différentes. La souche Zaïre-Soudan et en RDC, la souche Zaïre, la souche Ebola-Zaïre. Voilà. Donc, cette concomitance-là existe. Et ce que nous voyons actuellement aussi, c'est qu'il y a une épidémie en Afrique de l'Ouest et nous avons maintenant une épidémie en RDC. C'est simplement une coïncidence, mais ça n'a pas de relation. Nous avons séquencé notre souche ici. Nous avons séquencé la souche d'Ebola, du virus d'Ebola, ici, qui se vit actuellement ici en RDC. Elle est différente donc de celle de l'Afrique de l'Ouest. Donc ce sont deux épidémies qui n'ont pas de lien entre elles. Nous avons vu que l'épidémie a commencé, n'est-ce pas, en Guinée, dans la région forestière. C'est le même écosystème que chez nous, dans la partie équatoriale, n'est-ce pas, de la RDC. C'est le même écosystème. Et j'étais récemment à Moronvia. C'est également le même écosystème. Mais donc l'infection primaire en Guinée, certainement, c'était en contact avec un animal, un vecteur. Et puis, la transmission qui s'est faite au Libéria, ça n'a rien à voir avec la chasse, avec la viande de brousse. C'est une introduction, donc, d'un malade qui est venu donc, de la Guinée vers le Libéria. Et également, une deuxième introduction, un malade qui est venu de Sierra Leone, qui est venu donc au Libéria. Donc, c'est la transmission interhumaine.
Okay.
Ce n'est pas la transmission de l'animal, n'est-ce pas, à l'homme.
Okay.
Il y avait une seule transmission de l'animal à l'homme. Une seule, c'est en Guinée. Et puis, le reste, c'est vraiment la transmission interhumaine qui s'est déroulée à l'hôpital et également dans la communauté lors des cérémonies funéraires.
Merci infiniment, professeur Mouyombe. Restez à l'écoute, gardez l'antenne. Docteur Mboyo, avant de revenir à vous, Sarah Diaby, vous avez une question pour Amina Massoudi qui est à l'antenne depuis Goma.
Oui, Amina, vous êtes une personne vivant avec le virus du VIH. Quel est votre avis? Est-ce qu'on peut dire qu'à ce jour, vous vous sentez un peu plus soulagée face aux personnes qui sont malades d'Ebola ou bien est-ce le contraire?
Oui, car on nous a toujours appelé comme les personnes maudites, même si je me trompe pas, même récemment quand on parlait des services qu'il y a en RDC avec les docteurs et puis que l'on s'élève Et c'était l'émission Guérison Miracle, là où on a confirmé qu'avoir les deux yeux, avoir la malédiction. Maintenant, nous, on s'est dit qu'on a maintenant une malédiction, vu que le VIH, voilà, la malédiction méchante qui vient de se présenter maintenant, qui ne permet même pas à la personne de bien se préparer. Maintenant, là, nous, le VIH, on est quand même content parce qu'on voit que ce n'est pas nous qui sommes maudits, c'est une autre chose, c'est une maladie comme tant d'autres, même dans nos sensibilisations. Que vous nous appelez souvent que nous sommes des personnes. Et voilà, l'Ebola est là. Mmh. Donc, ce n'est pas une malédiction. Nous nous sentons quand même soulagés.
Oui. Oui, Amina, d'accord, Amina. N'oubliez pas que l'État du Congo a beaucoup travaillé dans la communication pour justement enlever ces façons de comprendre les maladies qui ne font que stigmatiser. Donc, et nous avons vu au fil des émissions que nous avons menées avec le docteur Moyo que nous avons même utilisé, nous utilisons le terme « personne vivant avec le virus » et que la communication est très claire par rapport à ces personnes qui portent le virus qui ne sont pas considérées officiellement comme des maudits. Non. Amina, on reviendra à vous dans un instant. Gardez la ligne quand même. Et docteur Mboyo, Chouchou a une question pour vous.
Docteur, vous avez vu depuis la réapparition de la maladie, donc du virus hémorragique à virus Ebola, je voulais dire, vous avez vu les actions entreprises par le gouvernement. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça?
Mais disons qu'il faudra, il faut féliciter le gouvernement et au-delà du gouvernement, le chef de l'État lui-même qui est très impliqué, qui suit de près cette riposte qui a été engagée assez tôt par rapport à cette redoutable épidémie. Et je crois qu'il y a une forte mobilisation du gouvernement, mais aussi de partenaires pour pouvoir, n'est-ce pas, contenir donc cette épidémie. C'est vraiment appréciable parce qu'il s'agit là des vies humaines, des vies de Congolaises et de Congolais, peu importe la situation ou la cause qui menacerait la vie de la population congolaise. Je crois que c'est du devoir du gouvernement, je vais dire de la responsabilité du gouvernement, de faire ce qu'il a par ailleurs bien fait. Donc c'est vraiment à apprécier par rapport à ce que le gouvernement a fait.
D'accord, merci Dr Mboyo et merci Professeur Mouyembe. Gardez la ligne, nous allons passer la parole à Félicien Kitoko qui est à Goma. Félicien, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, vous avez écouté le professeur Mouyembe et vous avez aussi entendu Dr Mboyo. Alors, quelle est votre question à l'un de ces deux invités avant de passer la parole à Amina?
J'aurais plutôt une question au professeur Mouyembe. C'est par rapport à cette coïncidence dont on parle par rapport à l'apparition des virus. J'aimerais juste savoir, est-ce que si nous comparons le virus quand il est apparu en Afrique de l'Ouest et qu'il était apparu chez nous en RDC, en termes de date, est-ce qu'il ne serait pas possible de dire que le virus qui est apparu en RDC est arrivé avant, mais peut-être que, compte tenu des aspects de surveillance épidémiologique, cela a été déclaré un peu plus après quand on a senti un déclic de surveillance par rapport à ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest?
Écoutez, toutes les épidémies que nous avons eues avant, 4 mois, 5 mois après, donc la maladie commence et puis on confond avec le paludisme, avec la fièvre typhoïde. Mm-hmm. C'est qu'après 2, 3, 4 mois qu'on fait le diagnostic. Mais cette fois-ci, ça n'a pas pris plus de 20 jours. Donc la détection a été vraiment très rapide, très rapide. Comme disait le prédécesseur là, ici chez nous, le gouvernement est vraiment impliqué. Et d'ailleurs, je crois que la déclaration a été sur instruction du président de la République. Parce que ceux qui ont annoncé cette épidémie, ce sont les militaires qui sont dans cette région-là. Donc ça n'a pas fait 20 jours. Nous avons confirmé cette épidémie immédiatement parce que nous avons un laboratoire, n'est-ce pas, à l'INRB, qui est capable donc de faire les diagnostics. Ce qui fait que le nombre de contacts que nous avons actuellement est relativement faible par rapport aux contacts des épidémies antérieures. Bon, voilà. Donc, c'est, ça, c'est l'avantage que nous avons ici avec cette épidémie-là. Donc, une détection très rapide et riposte rapide. En ce qui concerne la date d'apparition de notre épidémie par rapport à celle de l'Afrique de l'Ouest, non, l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest est de loin antérieure à l'épidémie que nous avons ici, n'est-ce pas, en RDC, qui a commencé seulement au mois de juillet. Notre épidémie est postérieure à l'épidémie, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest, qui a commencé, comme vous savez, en Guinée, et puis s'est passé à Sierra Leone, et puis au Libéria, puis maintenant au Nigeria, et on parle encore du Sénégal.
Mais professeur Muyomé, le Libéria est en train vraiment de payer un lourd tribut à Ebola. On a l'impression que même si le virus est venu de la Guinée, par transmission interhumaine, en tout cas, le Libéria est en train de souffrir plus. Comment expliquez-vous que la maladie fasse plus de victimes au Libéria que dans le pays qui l'a contaminé?
Exactement, je viens de là. J'étais à Monrovia. Je pense que, d'abord, le premier problème, c'est que c'est une épidémie qui se vit dans la capitale. Dans la capitale. Et si vous connaissez Monrovia, donc c'est confiné. C'est confiné. Donc la transmission interhumaine est très facile. Bon, et puis les mesures, comme je vous ai dit, les pays n'étaient pas préparés. Il y avait méconnaissance d'abord de la maladie, et puis certaines réactions de la population d'abord, et puis même des gouvernants, ce sont des réactions qui ont encore favorisé la transmission, n'est-ce pas, de la maladie. Entre autres, le fait qu'on a fermé les hôpitaux, quand on ferme les hôpitaux, donc les malades restent, n'est-ce pas, dans la communauté, et la chaîne de transmission s'allonge. Bon, et puis après, qu'est-ce qu'on a fait avec l'apparition, enfin, la dotation du médicament, du MAP, etc., qu'on a annoncé, et les malades maintenant commencent à sortir pour venir à l'hôpital. Mais quand ils arrivent à l'hôpital, il n'y a pas assez de place. Par exemple, dans les structures d'isolement que j'ai vues, pour la première fois, j'ai vu un nombre aussi important, il y a 200 malades, plus de 200 malades. Et les autres malades qui viennent, il y en a 50 à 100 par jour, ils n'ont pas de place, on les refoule. Ils rentrent dans la communauté, ils continuent à transmettre le virus. Donc, ça sont des situations qui sont difficiles à gérer. Et puis, bien sûr, il y a des mesures de coercition qu'on a installées. Par exemple, le West Point, le quartier West Point, a été complètement entouré par les militaires, et ça a provoqué d'ailleurs des émeutes, etc. Donc, ce qui fait que le problème est beaucoup plus complexe, et la gestion alors de l'épidémie devient une gestion catastrophique.
Merci, professeur Muyembe, pour ces éclairages. Nous allons prendre une petite pause et écouter une chronique de Sarah Diaby qui parle justement de l'Afrique des mots.
Le continent noir a toujours été en proie aux maux, de l'esclavage à la déportation, en passant par la colonisation et les guerres interminables. En plus, le 21e siècle s'est révélé être l'un des plus difficiles pour l'Afrique. Les calamités ont atteint leur paroxysme avec les maladies, mais surtout avec la maladie phare, celle du siècle, le sida. Hormis le virus Ebola qui est d'actualité et qui a déjà tué plus de 2000 personnes sur plus de 4000 cas révélés en Afrique de l'Ouest depuis qu'il s'est déclaré en Guinée en janvier dernier, le sida sonne comme une véritable inquiétude pour l'Afrique. Depuis sa découverte en 1982, le sida a fait plus de 28 millions de victimes. L'ONU SIDA estime à 35 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde, dont près de 25 millions en Afrique subsaharienne. Le constat est clair, presque alarmant, et la réalité implacable. Le sida est concentré en Afrique. Cela est clairement dû à la difficulté d'accès aux soins, à l'information, mais aussi aux tabous liés aux coutumes et traditions africaines qui obligent souvent le porteur du virus à cacher son statut. une situation qui peut le pousser à ne pas prendre ses médicaments et ainsi transmettre la maladie, souvent en bonne connaissance de cause. La transmission mère-enfant est également l'une des plus importantes sources de l'infection. En Afrique naissent 90% des bébés infectés, les systèmes de santé restent encore précaires et l'hygiène hospitalière est encore très défectueuse dans plusieurs pays africains, ce qui accroît les risques de transmission. Malgré ces chiffres qui laissent transparaître l'énorme travail à faire, il y a de l'espoir. En décembre 2013, lors de la Journée mondiale de la lutte contre le fléau, l'ONU-SIDA a publié un rapport dans lequel elle a émis des espoirs quant à une possible éradication de la maladie en Afrique. Des progrès énormes ont été réalisés. Le nombre de personnes qui décèdent de causes liées au sida chaque année a diminué, passant de 2,3 millions en 2005 à 1,6 million, soit une baisse de 35%. En Afrique subsaharienne, ce taux est estimé à 22% entre 2001 et 2012. En ce qui concerne les personnes vivant avec le virus dans les pays pauvres et intermédiaires, l'accès au traitement a été multiplié par 26 depuis 2004, soit 9,7 millions de personnes qui accèdent à un traitement antirétroviral à la fin de 2012. Les pays s'engagent de plus en plus dans la lutte contre le VIH. 81 pays ont augmenté de plus de la moitié leur investissement entre 2006 et 2011. Plus de 8,5 milliards de dollars, soit une hausse de 11% par rapport à l'année 2010. En Afrique subsaharienne, près de 90% des personnes qui connaissent leur séropositivité au VIH sont sous traitement et près de 90% des personnes dont le test VIH s'est révélé positif ont accédé à la thérapie antirétrovirale. Les recherches montrent également qu'en Afrique subsaharienne, 76% des personnes sous antirétroviraux ont atteint une suppression virale, ce qui signifie qu'elles ne sont pas susceptibles de transmettre le virus à leur partenaire sexuel. Lueur d'espoir, la diminution de nouvelles infections à VIH est plus forte chez les enfants. Le nombre d'enfants nouvellement infectés par le VIH a chuté de 52%, passant de 550 000 en 2001 à 260 000 en 2012. Du travail a été accompli, même s'il reste encore davantage à faire. Pour y arriver, les États africains doivent envisager une prise en charge complète des personnes atteintes et l'installation de centres d'information pour faciliter la communication autour d'une maladie qui reste jusque-là un sujet problématique et difficile à aborder.
Voilà, docteur Mboyo et professeur Muyembe, la chronique de Sarah Djabi. Qu'est-ce que ça vous inspire, professeur Muyembe, tout de suite?
Bon, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Hein. Bon, disons que les études et les recherches qu'on a menées sur le VIH, on a mis beaucoup de moyens et on a en fait, on est arrivé à des résultats très encourageants. L'espoir est là. Mm-hmm. Ceux qui n'avaient plus d'espoir ont retrouvé l'espoir.
Merci, voilà. Merci professeur Muyembe. Docteur Mboyo, rapidement. Votre réaction après la chronique de Sarah Djabi.
Disons, comme le professeur le disait tout de suite, là, donc l'objectif zéro, ça veut dire zéro nouvelle infection, zéro décès, et nous espérons zéro discrimination, c'est possible, il y a de l'espoir, et je crois qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras, qu'on continue à travailler, à se mobiliser davantage pour que nous puissions débarrasser le monde de cette épidémie du sida. Vous savez, le sida, à travers son dernier rapport, le Gap Report, n'est-ce pas, projette même la fin de l'épidémie pour 2030. Nous espérons. Et si cela devait arriver, ce serait vraiment une bonne chose.
Merci. Merci, messieurs. Merci d'être restés avec nous. Au revoir, professeur Muyembe. C'est un plaisir de vous avoir. Bonne soirée à Kinshasa.
Bonne soirée. Merci.
Au revoir, docteur Mboyo. Bonne soirée à Kinshasa. Vous aussi.
Merci, au revoir.
Salut, au revoir à mon ami Félicien Kitoko à Goma.
Merci.
Merci. Et à la semaine prochaine, merci. Félicien. On sera ensemble. Merci. Au revoir, Chouchou.
Au revoir, Khalil.
Au revoir, Sarah.
Au revoir, Khalil.
Technique Skip 6. Réalisation Georges-Léonard Sagnon. Micro Khalil Gay, au revoir et à la semaine prochaine.